Alors, en t'écoutant, évidemment, j'avais envie de me demander, je ne sais pas si le monde est plat, je ne savais pas quelle expression utiliser. Tu as dit le monde était plat. Moi, à un moment, je pensais le monde est grand. Puis après, je me suis dit que le monde est petit. Mais je sais pas quelle est la manière de la bonne formule. De toute façon, que ce monde soit grand et que ce monde soit petit, c'est un monde dans lequel il y a des problèmes de gouvernance. Et là, je reviens sur ce que disait François, mais qui se fait aussi écho à ce que disait Thierry Verdier, c'est que les frontières de l'État ont cessé de coïncider avec les frontières du marché. Alors, ce n'est pas tout à fait nouveau. L'État, les frontières, au XVIIe siècle, en France, les frontières de l'État étaient beaucoup plus larges que les frontières du marché, pour la plupart des produits, etc. Ce n'était pas vrai, par exemple, à la fin du Moyen Âge, hein, où il y avait toutes ces cités maritimes qui dominaient l'activité économique, et dans lesquelles on pouvait dire que les frontières du marché étaient plus larges que les frontières de l'État. Mais aujourd'hui, nous sommes dans un monde dans lequel, clairement, les frontières du marché, eh bien, c'est la planète, et les frontières des États et des États-nations, elles sont ce qu'elles sont. Et il y a évidemment un besoin de gouvernance. Alors ça pose des problèmes aux États-nations, bien sûr, c'est-à-dire quelle autonomie peut avoir leur politique, dans quelle mesure ils gardent par exemple, le contrôle de leur fiscalité, par exemple, etc. Ça pose des questions de gouvernance globale. Alors, ce qu'on peut constater, c'est qu'évidemment, aujourd'hui, il y a toute une série d'institutions qui sont installées et qui assure cette gouvernance mondiale, enfin assure, constitue un peu des prothèses d'un gouvernement mondial non existant, et qui sont la Banque mondiale, le Fonds monétaire international, l'Organisation mondiale du commerce, hein, institutions dont le fonctionnement pose énormément de problèmes, parce qu'on a l'impression qu'elles sont soustraites au contrôle démocratique, auquel on est habitué de voir les États-nations soumis, et on a l'impression qu'elles sont incapables de globaliser les compromis, c'est-à-dire de faire un compromis, par exemple, sur le commerce et l'environnement, dont on a besoin, par exemple, si je pense à la politique climatique, qui est le sujet qui me concerne particulièrement, dont on a vraiment besoin. Je voudrais juste ajouter, alors donc je réagis un petit peu à chaud sur ce que vous voulez dire. Je voudrais juste rajouter des choses qui concernent le savoir des économistes sur les questions que vous avez évoquées. Quelles sont les limites du savoir des économistes? C'est-à-dire, est-ce qu'il faut avoir confiance dans ce que nous disent les économistes sur le sujet? Alors, vous allez me dire que la réponse est évidemment oui, mais. Mais justement, je voudrais dire, je suis. J'ai souvent défendu par ailleurs. Je viens, je vais mettre quelques bémols. J'ai souvent dit par ailleurs du bien de la profession, en particulier en face de ceux qui en disaient du mal. Et je crois que je peux répéter ce bien. Hein, cette profession, enfin, ce qu'elle a fait dans les 20 ou 30 dernières années, c'est que d'abord elle est réunifiée. C'est-à-dire que le vieux clivage néoclassique, keynésien, marxiste, la trilogie célèbre des années 70, n'existe plus. Ce qui ne veut pas dire d'ailleurs que les sensibilités intellectuelles qui sont associées à chacun de ces courants ont cessé d'exister. Mais il y a une réunification. On a fait des progrès, on a amélioré les outils, on a considérablement développé les bases de données, et on a considérablement augmenté le nombre d'objets qu'on a regardés de près. Il y a eu un affinage des regards. Et je suis d'autant plus à l'aise ayant dit ça pour dire que ce faisant, se professionnalisant, devenant moins idéologue et plus professionnel d'une certaine manière, les économistes, enfin la science économique s'est aussi balkanisée et qu'elle a d'une certaine manière laissé oublier un petit peu tout ce qu'on appelle les aspects systémiques. Les aspects systémiques qui sont sur lesquels elle s'est construite. Toute la science économique du XIXe siècle s'est construite sur des débats qu'on peut dire dans des débats systémiques. Est-ce que le capitalisme est stable ou est-ce qu'il n'est pas stable, etc. C'est tout ça qui a construit notre discipline. Et ça, on l'a un peu oublié. Alors, si vous voulez, je vais prendre une autre image, hein, en faisant comme si la science économique était une science de la nature. Hein. Je crois qu'on a visité... De plus en plus de pays, on comprend de mieux en mieux les rivières, les vallées, les montagnes. Mais si je pouvais prendre une métaphore, il y a quand même des choses qu'on comprend toujours assez mal. C'est d'une part les avalanches et d'autre part la tectonique des plaques. Et les avalanches, pour moi, c'est simplement une métaphore pour la crise dont nous a parlé François. La crise, eh bien, c'est quelque chose qui se produit subitement. La neige est bonne, le soleil... paraît solide. On a l'impression qu'on peut skier sur cette neige. D'ailleurs, ça fait depuis 20 ans qu'elle n'a pas bougé. C'était l'époque de la grande modération, comme disaient les économistes. Et puis tout d'un coup, ça s'effondre. C'est l'avalanche. Alors évidemment, l'avalanche, on la comprend. On la comprend d'ailleurs beaucoup mieux après qu'avant, une fois qu'elle s'est produite. Mais on ne sait pas la prédire. Et ça, je crois que c'est parce que, à un niveau profond, je crois qu'on est quand même un des points aveugles de la théorie économique. La crise, c'est une rupture de la coordination des anticipations. C'est-à-dire, tout d'un coup, à un moment donné, les agents économiques prenaient leurs décisions sur la base d'une image du monde, leurs décisions aujourd'hui, sur la base d'une image du monde qui paraissait assez plausible, qui était crédible. Et puis tout d'un coup, cette image du monde s'effondre progressivement. Elle s'effondre parce que simplement le monde dans lequel on est n'est plus conforme à cette image. Et la question, c'est qu'il faut reconstruire cette image du monde, c'est-à-dire qu'il faut reconstruire une coordination des anticipations. Et ça, c'est vraiment au cœur de la crise et de la sortie de crise, et c'est quelque chose qu'on ne comprend pas totalement. Il y a une deuxième chose qu'on ne comprend pas totalement, et j'ai dit qu'elle est liée à la tectonique des plaques. La tectonique des plaques... et là, je fais allusion un petit peu à la question qui est en filigrane de ce que nous a dit Thierry Verdier. Quels vont être les effets de la mondialisation sur la distribution du revenu primaire dans nos sociétés? C'est une question absolument fondamentale, vitale. C'est une question qui nous taraude tous. Et c'est une question à laquelle on ne sait pas vraiment répondre, parce qu'on est dans le domaine un petit peu de la tectonique des plaques. C'est-à-dire, ce qui se passe sont des forces puissantes, mais à l'œuvre, je dirais, très lentement, silencieuses. Et c'est très frappant, par exemple, si vous regardez la mondialisation du 19e siècle, il y a eu des effets sur les prix qui ont été extrêmement forts, hein, des effets du type de ceux qu'on cherche à examiner. Par exemple, la rente foncière réelle, hein, pendant la période de 60 ans qui part de l'abrogation des lois sur les céréales anglaises, la rente foncière réelle en Angleterre a été divisée par 2 ou 3, avec des effets sociaux extrêmement importants, elle a été multipliée par 5 en Australie. Et quand vous regardez les économistes qui ont observé ces évolutions, qui sont des évolutions extrêmement fortes sur le système économique, bien vous voyez que tous les grands économistes de cette époque n'ont rien vu. Il a fallu attendre la fin de cette période, il a fallu attendre Heckscher et Olin pour qu'on nous mette le doigt sur cette évolution profonde et qu'on la raconte, qu'on en trouve une histoire, qu'on trouve une histoire plausible pour l'expliquer. Et j'ai un petit peu l'impression que sur la question qui nous préoccupe, eh bien, on est un peu dans le noir, c'est-à-dire qu'on ne sait pas exactement quelle sera l'histoire qui va se produire. Donc je vais m'arrêter là pour passer la parole à... Donc c'était un petit peu des commentaires à chaud sur ce qui a été dit. Et je vais demander à Tito de faire le même exercice avant qu'on passe aux questions. Merci.
C'est pas facile parce que vraiment il y a eu plein de suggestions très intéressantes. Non, je reprends le fait qu'on est au noir, mais pas pour dire certainement que c'est sûr et certain que l'économie n'a pas de lois simples qu'on peut suivre pour comprendre et pour prédire ce qui va se passer. On n'a pas la loi de gravité, ce sont des choses beaucoup plus complexes. Donc je ne vais pas rentrer dans la discussion si le 2010, le 2009, 2010, les lettres, non, ça va être la V, la W, la L. Peut-être l'unique chose que je pourrais dire, c'est qu'à Trento, étant donné que c'est un festival de l'économie, en Italie, quand on parle de festival, on pense toujours au festival de la chanson de Sanremo. On parlait de 2010, si le 2010 aurait été un 2010 rock ou lento. Donc c'était un peu ça. Et la conclusion qu'on avait trouvée, c'est que pour les pays de l'OCDE, de l'Europe en général, ça va être lento. Et pour les pays comme la Chine, les pays émergents, ça pourrait être rock. Donc je pense qu'on est un peu de la même, on la pense de la même façon que François. Et François ne connaît pas Adriano Celentano, donc c'est pour ça qu'il l'appelait dans une façon différente. Mais je pense que nous devons ici avoir une discussion. Donc il faut essayer de trouver des choses sur lesquelles on n'est pas tout à fait d'accord. Alors j'essaie de dire des choses sur lesquelles je ne suis pas sûr d'être d'accord avec ce que François disait avant. Et je vais un peu mettre aux extrêmes ce qu'il disait, parce que sinon on n'arrive pas à avoir une discussion. Je crois qu'il disait que la crise, la responsabilité de la crise est dans la globalisation, dans la mondialisation. Voilà, moi je ne suis pas tout à fait d'accord avec, je pense, c'est sûr, et l'exposé de Thierry nous a montré d'une façon très efficace que la mondialisation a un rôle très important dans la propagation de la crise. Donc là, c'était une crise qui s'est propagée immédiatement dans tout le monde. Il y a eu ce mélange explosif du fait du credit squeeze, pas possibilité d'accéder au crédit, et de l'autre côté de la chute de la demande, et là, ça s'est transféré dans toute la planète d'une façon extrêmement rapide. Ce qui a fait de la crise, c'était beaucoup plus rapide, plus dur au début du 29. Mais si on regarde à ce qui a amené à la crise, je ne suis pas autant sûr que François, qui c'était un excès de mondialisation, de libéralisation de marchés, des marchés de biens et des marchés de capitaux. Aussi, même dans les lignes qu'il montrait avant, le rôle très important dans l'excès des épargnes et donc dans le financement de consommation américain a été joué surtout par la Chine, parce qu'on regardait vraiment la différence, c'est la Chine, un peu moins l'Inde. Mais la Chine et l'Inde ne sont pas des pays qui ont libéralisé complètement leur marché. La Chine a gardé une politique pour le taux d'échange qui était une politique qui a vraiment voulu, qui était contre la consommation interne, qui était pour accumuler un surplus. Donc si la Chine change, ça va changer complètement la situation. On aurait eu une mondialisation complètement différente. C'était un choix de la Chine. L'Inde aussi, c'est un autre pays dans lequel l'État joue un rôle très important dans la réduction des flux d'échanges du commerce. Donc ce ne sont pas un excès de marché, disons-nous. C'est peut-être des mauvais choix au niveau global. Peut-être il pouvait être justifié dans le cas national, mais c'était des mauvais choix au niveau global. Et aussi la crise du système qui est née dans le système financier américain est née parce qu'il y avait des réglementations des marchés financiers qui n'étaient pas suffisantes. Donc il y avait des entiers morceaux de marchés financiers qui n'étaient pas contrôlés. Et ça a amené à la situation. Donc je ne suis pas autant sûr que lui qui c'était un problème lié à la globalisation, peut-être c'était un problème lié à des mauvaises réglementations qu'il y avait dans le monde, dans les marchés financiers, mais pas simplement dans les marchés financiers. C'est la chose sur laquelle, par contre, je suis tout à fait d'accord avec François et avec Thierry, parce que c'était la même conclusion de leurs deux exposés, c'est que pour gérer la mondialisation, il faut avoir une gouvernance qui soit différente et qui soit au niveau de la mondialisation. Et là, vraiment, c'est la difficulté et la chose difficile pour nos classes dirigeantes, pour la classe politique, le fait d'être capable d'expliquer à l'opinion publique qu'il faut un peu limiter le rôle des États nationaux pour avoir plus de gouvernance, pour déléguer d'autorité à des structures qui sont au-delà des États nationaux, et en même temps dans une condition dans laquelle la crise a accentué, si vous voulez, a augmenté l'identification au niveau local. Parce que dans la crise, on le voit partout,
Les personnes vont s'identifier avec la réalité limitée de leur ville, de leur travail, de leur secteur productif. On a eu des pulsions protectionnistes, comme Thierry expliquait très bien, très fort dans la crise. Vous pensez à ce qui s'est passé aussi au Royaume-Uni, où il y a eu les travailleurs qui étaient contre le fait qu'il y avait des ouvriers des autres pays qui venaient travailler. Et le Royaume-Uni, c'est un pays dans lequel la culture du marché, de l'ouverture internationale est beaucoup plus fort que dans nos pays, en France et en Italie. Donc, c'est vraiment difficile ce qu'il faut faire, parce qu'il faut commencer à trouver des façons de gouvernement, donc de renoncer, si vous voulez, réduire les rôles des États nationaux, justement dans le moment où, par contre, il y aura une opinion publique qui voudrait avoir plus d'États au niveau local et plus de présence au niveau local, qui ne voudrait pas déléguer d'autorité à quelque chose qui est autre et dernière chose. Clairement, pour faire ça, c'est très important de regarder aux questions, aux effets sur la solidarité sociale de la crise, aux effets à l'inégalité qui sont associées à la crise. Et là, j'arrive à une chose qui avait dit Thierry, que j'ai trouvé très important. Maintenant, il y a cette classe moyenne du monde qui souffre. C'est la classe, c'est surtout fait par les travailleurs qui ne sont pas qualifiés du Nord. Là, ce sont les personnes qui vraiment souffrent dans la crise. Alors, il faut trouver une réponse pour ces problèmes. Je pense que la réponse doit être surtout dans le système de protection sociale des pays du Nord, qui doivent évoluer pour répondre à cette... Et l'autre grande réponse ne peut qu'être que dans le système d'éducation, parce que vraiment l'avantage compétitif que nous avons, c'est dans le capital humain. Si on regarde au capital humain, éducation, là, le monde, c'est pas du tout plat. Là, c'est une chose que disait aussi Daniel. Si on regarde dans les professions intellectuelles, les distances sont devenues encore plus importantes. On a des économies d'agglomération qui sont très fortes. Si vous regardez au flux des PhD, des personnes qui étudient au grand niveau de la recherche, vraiment le fait d'arriver à masse critique des chercheurs est devenu de plus en plus important. Il n'y a pas du tout une réduction des importances de la distance. Donc, les pays du Nord peuvent vivre bien, peuvent avoir de nouveaux avantages compétitifs s'ils arrivent à investir encore plus dans l'éducation. Pour ce qui concerne le système de protection sociale, alors il y a une question importante de le lien entre la protection sociale, les réformes du marché du travail et l'investissement dans l'éducation. Et c'est un problème qui est très fort, je pense, à ce moment en Europe. C'est très fort en Italie, c'est très fort en Espagne, je pense que c'est très fort en France. Je vais parler du problème du dualisme du marché du travail. Un problème que je pense qu'il faudrait, sur lequel il faut concentrer l'attention de policy maker, parce que si on n'arrive pas à le résoudre, ça peut nous rendre plus difficile cette voie de sortie de la crise. Le dualisme a une conséquence très grave. Ça veut dire que les jeunes aujourd'hui rentrent dans le marché du travail dans nos pays en ayant des contrats qui ont déjà au début une date d'expiration, d'échéance. Et sont des jeunes qui sont beaucoup plus sujets à des périodes de chômage. Mais le fait qu'il y a déjà une date limite au contrat amène à une situation dans laquelle ni le travailleur, ni l'embaucheur, ni l'entreprise font d'investissement dans la formation du travailleur. Ça, on le voit très clairement, parce que les données disent ça. On a des jeunes générations qui maintenant rentrent dans le marché du travail dans nos pays sans recevoir sur le travail aucun genre de formation. Là, c'est un problème très sérieux, parce que la formation, on l'a fait pas simplement dans l'éducation formelle, dans les écoles, dans les universités, mais on l'a fait beaucoup sur le lieu de travail. Et ça ne se passe pas parce qu'il y a ce dualisme dans le marché du travail. Donc, il faut vraiment résoudre ce problème. Je pense qu'on peut le faire, parce qu'il y a des propositions qui ont été faites, même en France, pour essayer de n'avoir pas une tellement forte distinction entre les contrats qui aujourd'hui sont protégés, les contrats à temps indéterminé, les CTI et les CTD. On peut faire des choses pour éviter qu'il y ait une différence autant forte de celle qu'il y a maintenant. Mais je pense que là, c'est une question vraiment très importante aussi pour répondre aux gens de problèmes dont Thierry parlait avant.
Merci Tito. Je crois que le moment est venu de... Donc je crois que le moment est venu de passer aux questions. Oui, monsieur. Alors, vous passez les micros, peut-être.
Oui, très brièvement, si vous permettez simplement commencer, disons, par la fin de l'exposé de nos deux intervenants du Fonds monétaire international. Pour leur dire que d'abord, personnellement, je suis fondamentalement en désaccord. Je ne crois pas que c'est la gouvernance mondiale qui résoudra le problème. Je vais vous dire pourquoi. D'ailleurs, vous-même...
Non, monsieur, est-ce que vous pouvez poser des questions?
Non, mais pour pouvoir poser ma question, je veux dire le pourquoi.
Oui,
non,
bien sûr. Oui,
mais d'accord. Ce que je veux dire, effectivement, moi, ce que je crois, et ça a été fait un peu allusion, vous en avez vous-même parlé, il me semble que c'est le fait de l'affaiblissement des États-nations qui fait que, au niveau de l'économie qui est devenue vraiment mondialisée, fait que les politiques ne disposent plus de pouvoir d'incitation et, je dirais, de régulation de l'économie. Et donc, ma question est celle-ci. Contrairement à ce qu'on veut dire, la gouvernance mondiale est plutôt nocive, puisque jamais il y a eu tant d'élargissement du marché au niveau mondial, jamais il y a eu tant de pauvreté. Donc, il me semble, est-ce que vous ne pensez pas que là, vous êtes à côté de la plaque vous êtes à côté de la plaque, et donc, notamment, revenir à la possibilité des États-nations et aux politiques, car l'économie est au service du politique et non pas le politique au service de l'économie. Voilà ce que je voulais dire.
Mais merci, c'est la plaque tectonique dont vous parliez peut-être. Donc, c'est une bonne question. Je crois qu'on va prendre deux, trois questions hein, pour répondre un petit peu. Oui, au fond de la salle, là-bas.
Oui, alors moi, je voulais poser une question sur l'impact éventuel sur la DIT, essentiellement sur l'aspect industriel d'ailleurs, et le commerce de la cherté du coût du transport qui pourrait intervenir avec l'élévation du coût, par exemple, des énergies fossiles, mais aussi en rapport avec le développement durable. Est-ce que ça peut modifier la mondialisation?
Attendez, je ne suis pas sûr d'avoir compris la question. Peut-être que mes collègues ont compris. Alors, est-ce que vous voulez la répéter?
Oui. Quel peut être l'impact sur la DIT et le commerce l'élévation du coût du transport, notamment sur les produits industriels? Est-ce que ça peut modifier l'organisation de la production au niveau mondial? Est-ce qu'on peut avoir un retour à une certaine régionalisation pour limiter les transports en fonction du coût du transport qui pourrait être élevé, avec évidemment la cherté des énergies fossiles, mais aussi tous les problèmes d'environnement et les problèmes de carbone.
Oui, c'est-à-dire, est-ce que par exemple une taxation du carbone dans les transports conduirait à limiter le commerce international, une taxation écologiquement souhaitable, par exemple? Merci. Donc c'est une deuxième question. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Pas d'autres questions?
S'il vous plaît, je vais essayer de parler fort parce qu'il n'y a pas de micro. Moi, je suis tout à fait d'accord avec une bonne partie des propos que j'ai entendus sur la protection sociale, sur le rôle que devraient jouer les institutions, les politiques. Mais quand on entend le discours politique depuis quelques années, on obtient un discours totalement inverse, et notamment dans les milieux de décision qui font tout pour démanteler tout ce qui est protection sociale, éducation dans de nombreux pays. C'est ça que j'aurais une réponse. Est-ce que c'est simplement un rêve,
les dire,
ou est-ce que ce sera suivi?
Merci, la question est claire. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Est-ce que le micro ne peut pas venir, s'il vous plaît, parce qu'on n'entend pas très bien là? Ah, il n'y en a pas à l'étage, d'accord, excusez-moi. Alors allez-y, parlez fort.
Thank you.
Merci. Alors, on peut peut-être prendre une dernière question avant que je... Oui. Bien. Merci. Ben je crois que les questions ont un peu élargi le débat sur beaucoup de questions de politique économique. Je demandais à peut-être Thierry et François, dans cet ordre, de répondre brièvement. On ne peut pas traiter au fond toutes les questions qui ont été posées. On avait déjà un sujet extrêmement large, mais il est devenu beaucoup plus. Thierry, quelques remarques sur ce qui a été dit, qui est le plus particulièrement... en prise sur ce que tu as dit.
Je vais juste peut-être deux remarques. La première, c'est sur la nécessité d'une gouvernance mondiale et ou le renforcement des États nationaux, des espaces nationaux et des souverainetés nationales. Alors, simplement, je pense qu'il faut se mettre dans une perspective historique de très longue durée. Si l'on regarde l'histoire du monde, je prends 11e siècle. 11e siècle, une première vague de mondialisation. C'est Marco Polo. C'est grâce à ça qu'on a les raviolis, les pâtes. Les Italiens sont très contents. Mais 11e siècle, 12e siècle, c'est quoi qui permet ceci? C'est la sécurisation de la route entre la Chine et l'Occident par l'Empire mongol. Ensuite, découverte de l'Amérique. C'est encore une puissance nationale, l'Espagne, qui permet cet événement. Ensuite, mondialisation du 19e siècle. C'est encore une puissance mondiale qui permet cet événement, le Royaume-Uni, l'Angleterre. Le 20e siècle, la deuxième partie du 20e siècle, la période de mondialisation que nous avons vécue, c'est encore une hégémonie mondiale, les États-Unis. Avec évidemment en sous-jacent la question idéologique par rapport au monde capitaliste versus l'Union soviétique et la Chine. Ce que je suis en train de dire là simplement, c'est que le 21e siècle, ça va être encore une évolution et ce ne sera plus une hégémonie ou ce sera la transformation vers une autre hégémonie. Et l'autre hégémonie vers laquelle on va, on la voit très bien, c'est la Chine. Et à terme, l'Inde. Ma question, c'est simplement que généralement, entre toutes ces périodes de changement d'hégémonie, s'il y en a, il y a des frictions énormes, des tensions énormes, des perturbations énormes. Et généralement, ce ne sont pas simplement à travers le commerce pacifique que cela se passe, c'est à travers des guerres, des conflits. Si l'on regarde simplement les États fragiles de l'autre côté de la Méditerranée, ces États fragiles, on regarde leur pyramide des âges par rapport à notre pyramide des âges chez nous. Eh bien, la pyramide des âges des États fragiles de l'autre côté de la Méditerranée, en Afrique, c'est essentiellement, majoritairement, des gens jeunes qui meurent jeunes et qui n'ont pas d'emploi. Chez nous, on est vieux, on meurt vieux et on perd nos emplois, mais simplement, il n'y a que la Méditerranée entre les deux. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que si on prend vraiment une perspective large, les périodes de transition, soit on essaie de les gérer par des accords qui sont difficiles, compliqués et qui impliquent des souverainetés nationales compliquées, mais à gérer ensemble et à coordonner et à respecter, ou alors ça se termine par des conflits, où là encore, évidemment, il y aura un renforcement d'identité de souveraineté nationale, mais pas forcément la nôtre. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est simplement sur les coûts de transport et l'environnement. Je suis d'accord que si, en effet, on commence à prendre en compte l'impact des coûts de transport sur l'environnement, l'impact sur le commerce international peut avoir des effets, et notamment, certainement, sur les biens homogènes plus que sur les biens différenciés, parce que c'est là que se font, en fait, l'impact le plus important des coûts de transport et des distances dans le commerce mondial. Voilà. Bon, je vais m'arrêter là.
Oui, François, est-ce que tu peux répondre brièvement,
parce que normalement... Oui, en style télégraphique sur plusieurs points. Premier point, Tito est parti, mais je voulais lui dire que je ne crois pas avoir dit que la mondialisation était la cause de la crise. J'ai simplement dit que les interactions de stratégie nationale avec des effets systémiques, avec des effets sur l'ensemble de l'économie mondiale, étaient ce qui pouvait expliquer l'apparition de la crise et était un problème avec lequel il fallait traiter pour les décennies, probablement les siècles qui viennent. Ceci m'amène effectivement au point sur la gouvernance mondiale et les États-nations. Qu'on le veuille ou qu'on ne le veuille pas, on vit aujourd'hui dans un monde dans lequel il y a des externalités entre les États-nations. La première d'entre elles était probablement celle qui a été signalée déjà à plusieurs reprises, l'écologie. Mais la crise, mais le commerce international montre que ce qui se passe dans un pays, la stratégie arrêtée par un pays a nécessairement, dans le monde dans lequel nous vivons, des répercussions sur les autres. Et c'est ça qui demande des progrès dans la gouvernance mondiale. J'indique en passant que ni Thierry ni moi ne sommes du Fonds monétaire international. Nous sommes de l'École d'économie de Paris. Un petit coup de publicité en passant. J'ai eu des fonctions à la Banque mondiale en plus. Ouais. Sur ce point, d'ailleurs, je voudrais aussi indiquer, quand on dit que la mondialisation n'a fait qu'augmenter la pauvreté, je voudrais même signaler que si on prend les 20 dernières années dans le monde, la pauvreté a diminué d'à peu près 800 millions d'habitants dans le monde. On considère que c'est un résultat négatif, alors je pense qu'on a un problème dans nos jugements de valeur. Alors ce qui est exact, c'est que cette pauvreté a diminué dans des pays qui ne sont pas les nôtres et qu'on définit la pauvreté comme des gens qui n'ont pas ce qui est nécessaire pour survivre et non pas une définition peut-être plus relative de la pauvreté. Protection sociale, le problème qui se pose aujourd'hui, ce n'est pas tellement, je crois, de vouloir démanteler la protection sociale. Le problème auquel on est confronté aujourd'hui avec la mondialisation, c'est le problème d'organiser la protection sociale de la façon la plus efficace possible, c'est-à-dire en particulier qu'elle pèse le moins possible sur la compétitivité des différents États. On va dans cette direction. En France, par exemple, faire passer l'assurance maladie de la charge associée au travail à l'impôt général est un pas dans cette direction-là et on continuera dans cette direction-là. Que la Chine ait des problèmes, qu'en Chine, on puisse attendre à ce qu'il y ait une évolution des esprits et qu'à un moment ou à un autre, la classe moyenne prennent d'une certaine façon le pouvoir, je crois que c'est vrai, je crois que ça arrivera, je crois que quand ça arrivera, il y aura une période de ralentissement de l'économie chinoise. Si je regarde l'évolution du monde dans les 10 prochaines années, si on regarde ce qui est déclaré par les autorités chinoises à l'heure actuelle, ça n'est pas encore le cas, mais on est bien d'accord qu'à un moment ou à un autre, cette étape viendra. Et puis, dernier point pour répondre sur la question de l'épargne qui est dégagée et qui va s'investir dans la spéculation et dans les secteurs financiers. Tout ce que j'ai pu dire dans ma présentation et ce sur quoi les économistes seront d'accord, c'est le fait que l'épargne, en termes de biens, en termes réels, va nécessairement se placer dans des opérations réelles. La spéculation, les secteurs financiers sont des intermédiaires. C'est parce que il y a eu une épargne excédentaire dans une partie du monde que des consommateurs américains ont été capables de s'endetter pour acheter des biens qui venaient justement de cette autre partie du monde. Donc vous voyez bien que les déséquilibres dont on parle, ce ne sont pas des déséquilibres financiers nécessairement, ce sont des déséquilibres en termes de biens, en termes réels. Il y a un dualisme dans les phénomènes économiques entre le financier et le réel. En ce qui me concerne, j'ai préféré insister sur le réel, mais il est tout à fait exact que dans le monde dans lequel nous vivons, le financier, de façon autonome, joue aussi un rôle considérable.
Merci François. Donc, merci aux orateurs. Tito Bori nous a quittés. Il devait partir pour Bruxelles, comme il l'a dit. Merci de votre attention.